Merci. Je trouve intéressant le fait que vous empruntez des voies différentes pour aborder cette question. Et pourtant, il y a pas mal des éléments qui se croisent dans vos textes. Par exemple, vous parlez tous les deux de la soudure de l'analysant au couple analysant-analyste. Peut-être qu'on pourrait dire davantage. Et vous parlez du changement d'analyste, tous les deux, de l'entrée de l'analyse, de la fin, avec l'humeur maniaco-dépressive. Ce que j'ai envie d'interroger un peu, c'est un point où vous dites tous les deux que l'analyste s'offre comme cause pour causer le désir de l'analysant. Vous dites il faut que ça se passe aux frais de l'analyste. C'est une position qui n'a pas, vous l'avez dit aussi, Anne, c'est un semblant d'objet, hein, c'est pas par mimétisme ou avoir l'air. Oui. Et donc, justement, vous dites que ça peut être le risque pour l'analysant qui reçoit comme analyste, qui n'est pas encore arrivé au terme de son analyse, de ne pas être dans cette position de semblant d'objet. Et là, vous évoquez une pente naturelle. D'ailleurs, ça revient aussi, ce terme, la vocation naturelle pour vous. Une pente naturelle du sujet d'être l'objet de l'autre. D'où la difficulté de l'analyse qui reçoit comme analyste, et que entre le mimétisme éventuel, il faut un long trajet avant qu'il trouve, vous dites, à la fin de l'analyse, le naturel de son style, que vous liez à la différence absolue, si j'ai bien suivi un peu votre argument. Donc, je vous demande un peu comment vous entendez de développer un peu plus ce naturel du style, et peut-être dire aussi un mot sur le style dont on y est. Et pour vous, c'est vrai qu'il y a la vocation naturelle. Déjà, vous avez fait un titre, le titre de votre exposé. Vous dites bien à la fin qu'être analysant, ça n'a rien de naturel. Je ne veux pas vous poser une question sur ça, mais vous dites que l'analysant fait l'analyste, dans le sens où il institue dans sa fonction de faire travailler. Et vous concluez qu'il fait le maître, l'analyste, parce qu'il ne travaille pas et il fait travailler. Donc je me demande, je vous demande, est-ce que vous mettez en parallèle maître esclave et analyste analysant? Vous dites qu'il y a une position, vous dites à un autre moment que l'analyste, il se trouve dans la position du maître. Là, quand il dit à propos de l'esclave qu'il sait quelque chose, c'est pour ça justement qu'on se prend la peine de le commander. Or, pour l'analyste, l'analyste, il ne dirige pas l'analysant, il dirige la cure. Donc, comment vous entendez, c'est faire le maître? Est-ce que vous pensez que l'analyste opère comme maître? Voilà pour commencer après.
Je ne sais plus du tout quelle question.
Le naturel de son style.
Le naturel de son style. Je pense qu'effectivement, on a quand même, il faut bien voir qu'on a une minuscule expérience au bout d'un moment, quand on commence à travailler, on a beau lire Freud, on a beau lire Lacan. L'expérience en tant qu'analyste est minime. Et minime, même si on a fait des assisté à l'alimentation de malade, qu'on a fait un contrôle, c'est quand même tout petit ça. Et je pense que justement la passe et les échanges qu'il y a dans l'école permettent d'agrandir un petit peu ce tissu d'expérience. Hein. Donc je pense qu'il faut un long temps, effectivement, pour lâcher ce qu'on a fait toute notre vie, d'imiter papa-maman, d'imiter tout ce qu'on fait, quoi, tous les jours. Et quand les enfants grandissent, ils imitent, sauf à l'adolescence où ils commencent à ne plus vouloir. Mais on est quand même imprégné de l'autre. Hein, et l'autre aussi, ça joue dans notre expérience. C'est-à-dire qu'on est imprégné de ce qu'on a connu comme expérience analytique. Et je pense que c'est un long dégagement que de s'en séparer. C'est d'ailleurs la fin de l'analyse aussi, hein, quand on trouve son style. Voilà.
Sur ce point. voilà, j'ai une question qui prolonge celle de Dimitra. Merci d'abord pour ton exposé. Dimitra est très précis, presque un témoignage. Alors justement, sur ce point, tu n'analyses plus comme au début. Tu t'es allégé, tu as trouvé ton style, etc. Est-ce que tu analyses mieux?
C'est une grande espérance.
C'est pas certain, c'est une vraie question. Mais
je ne sais pas comment, c'est très délicat de répondre, je ne sais pas du tout. Il faudrait pouvoir interroger tous ceux qui sont sur nous vivants, ce qui ne se fait pas. Alors, est-ce que effectivement on ne perd pas peut-être une espèce de... Non, non, je crois pas. J'allais dire une espèce de simplicité du début, mais je pense pas, c'est une fausse simplicité, c'est-à-dire on se leurre si on prend ça, je pense pas.
Tu parles d'une simplicité du début, toi.
Bah oui, parce qu'on n'y connaît rien.
Mais moi je parlais plutôt d'une simplicité d'après.
Non. Bah oui, c'est vrai. Non, mais alors on se croit simple au début alors qu'on est complètement brouillé, et qu'effectivement à la fin, on est beaucoup plus simple.
Mais la question, j'aimerais répondre aussi à la question de Marc, parce qu'elle est intéressante, ça touche à la question du maître. Alors, le maître tel que j'ai été le chercher, c'est en le déduisant du propos de Lacan dans le séminaire de notre à l'autre. C'est là où il parle de l'acte inaugural qui est du côté de l'analysant, qui institue l'analyste comme celui qui fait travailler, mais simplement qui fait travailler, qui ne travaille pas à lui. Est-ce qu'on analyse mieux ? Ben déjà, je me dis que peut-être on est à côté de ce qu'on essaie de dire là, à savoir que ce qu'on peut faire, c'est permettre à un sujet de s'analyser.
Mais... Précision importante.
Est-ce qu'on le permet mieux ?
Comment est-ce qu'on le permet ? Comment ?
La forme réflexive du verbe pose, je trouve, problème. On ne s'analyse pas soi-même.
Non, 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 absolument pas.
Donc s'analyser...
C'est permettre à l'autre de faire son chemin.
Martine, elle voulait parler, mais... Attends, il faut trouver le micro.
C'est le bout du rouleau, là.
Attendez.
Non, mais je vais parler sans micro.
Un peu plus, ça.
Il faut vraiment que tu te mettes au fond.
Là, c'est le maximum.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, je vous remercie tous les deux pour l'authenticité de vos interventions, chacun. C'est quelque chose de très authentique et de vraiment du bien. Ensuite, ce que m'a suggéré cette affaire, ce que tu relèves à l'imitation, qui est tout à fait notable. Je me souviens qu'il y a un temps où on s'amusait à savoir avec qui était un analyse un tel ou un tel, parce qu'on repérait comme ça, selon le look.
Le look ou le tic de langage.
C'était un des jeux qu'on a pratiqué à un moment.
Oui, oui.
Et malheureusement, qui marchait. On ne se trompait pas tellement. Ça me fait penser à ce que Lacan a dit, faites comme moi, ne m'imitez pas. Il y a un écart énorme entre le faire pareil, le faire comme, mais ne pas imiter. Bon, ça c'était des remarques. Maintenant, alors ma question, elle est un peu à tous les deux, mais peut-être plus à toi, Anne, parce que tu as plus simple à accentuer ça. Quand vous parlez du savoir, désir de savoir, le désir du savoir, de l'analysant, met en jeu, et de quel savoir vous parlez?
C'est vrai que c'est pas simple. Quand je dis désir de savoir, c'est vraiment...
Dominique a utilisé aussi deux...
Au niveau, oui, c'est difficile. Moi, je deux et deux, je n'ai pas envie de parler comme ça. Ça ne va pas. Je ne comprends pas. Voilà. Deux et deux.
Dans le cas, il y a... Pardon, mais...
Tu veux m'éclairer?
Oui, mais très simplement, il y a sans doute des choses élaborées à dire, mais... désir de savoir, c'est le verbe. Désir de manger, désir de savoir, désir de voir, désir de faire tout de suite. Désir du savoir,
chercher
le savoir. On va leur la le savoir. On voit tout de suite que l'expression est différente.
Enfin, ce que je mets là-dedans, ce que j'ai exprimé, c'était simplement le décodage, enfin la lecture de ce qui nous a imprégné du désir inconscient de l'autre. Voilà.
Quand tu parles du savoir insu, du savoir sensu.
Voilà, du savoir de l'inconscient, hein, de sa position déterminée par les désirs de ceux qui sont occupés de nous.
Une question.
C'est pour ça que j'ai choisi de m'en écarter en parlant du désir de vérité, qui est encore autre chose. Et ouais. Qui est problématique.
Ça va aller. Anne, tu as parlé la question du changement d'analyste. Laissons de côté les changements naturels d'analyste. Tu évoquais la question de l'analyste. Laissons de côté la question naturelle, le changement. Je n'ai pas bien saisi pourquoi tu en parles. C'est un fait que ça existe. C'est vrai qu'on pourrait ajouter qu'il y a, tu ne l'as pas développé, peut-être tu pourrais dire un mot, qu'il y a une raison qui est l'impasse, un analysant qui est à l'impasse dans son analyse. Donc, je n'ai pas bien saisi pourquoi tu as parlé de la question du changement d'analyste. Ce que tu as dit, c'est juste, mais je ne voyais pas la finalité.
Mais la finalité, c'était pour montrer que, justement, l'école est là et provoque aussi une multitude de transferts et que ça peut tout à fait être au service de l'analysant quand il a débuté dans sa cure, justement. Hein? Et puis, si tu veux, j'avais été un petit peu surprise, questionnée par des témoignages d'AE sur des changements d'analyste, alors que tout semblait faire penser, d'après le témoignage, qu'elle aurait pu s'arrêter là, et que quelque chose existait suffisamment pour qu'elle reprenne. Ça m'avait surprise, ça.
Mais une reprise, c'est pas un changement.
Ben, si, c'était un changement d'analyste. D'analyste.
Oui. Bon. Donc la même question un peu à Dominique.
Si tu veux, c'est aussi pour bien montrer qu'on peut choisir de sa position aussi, même si on pense que ça fonctionne bien, l'analyse, etc. Il peut arriver que quelqu'un s'en aille et continue avec quelqu'un d'autre.
Oui, bien sûr. Ça, bien sûr, ça existe. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cas de gens qui n'ont pas fait l'analyse avec une seule personne. La question de Dominique, c'était un changement d'analyste ou une autre tranche?
Une autre tranche, avec un autre analyste.
Oui, ça j'ai compris.
Ouais. Ouais. Après, je veux répondre à la question de Martine concernant le savoir. Je crois que le savoir dont nous parlons, c'est celui qui pousse le sujet dans cette quête de jouissance dans laquelle qu'il mène sans en connaître les coordonnées. Voilà, c'est ça, on parle que de ce savoir-là. Et c'est là-dessus que Lacan affirme qu'il y a une pente naturelle à être analysant. Le sujet supposé savoir concerne le savoir du sujet supposé savoir, la jouissance du sujet supposé savoir. Donc c'est cette fameuse quête de jouissance qui mène le sujet par le bout du nez, j'ai envie de dire. Est-ce que ça répond?
On verra.
Ah, j'aurais pas dû alors.
Sujet supposé savoir, le met du côté de l'analyste ou de l'analysant? Parce que dans télévision, le sujet supposé savoir, c'est l'analysant.
Ah oui. C'est lui qui l'institue, oui.
Il est en fonction
entre les
deux.
C'est une fonction. C'est une fonction, oui. Bah, entre les deux, si on veut, c'est ce que va creuser et mettre et faire surgir à la place du sujet supposé savoir l'objet petit a qui va surgir à la fin, non plus comme représentant, mais présentation de l'objet. C'est-à-dire quand l'analyste, à la place du couple analyse-analyste, devient cette chose absolument inanalysable. Je ne sais plus où Lacan dit ça, j'aimerais bien retrouver la citation. L'analyste, à la fin, il devient cet objet absolument inanalysable. Si quelqu'un pouvait retrouver ça, ça m'aiderait.
Irène, tu voulais poser une question?
J'ai une question à Anne. Je vais poser une question à Anne concernant la chute du grand titre dont tu parles à la fin de l'analyse. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'à la fin de l'analyse, effectivement, on a saisi quelque chose des coordonnées du sujet vis-à-vis du grand autre, ça peut effectivement amener à quelque chose du côté d'une chute, mais après la fin d'analyse, le quid de cet autre, c'est-à-dire que bon, il y a eu un arrêt, il y a eu une fin, mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y a quelque chose qui se poursuit malgré tout avec ce grand autre? Parce que tu me disais, bon, avec les années, on se détache, on connaît des gens, voilà, mais cette question de
du détachement
est propre à chacun.
Alors oui, mais je pense que quand même c'est irréversible. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut prendre soin de l'autre. Alors l'autre, c'est les autres, mais c'est aussi la manière dont on peut penser que l'autre existe pour les autres. Voilà. Enfin, c'est un peu tordu, mon truc. Il faut que je développe un peu vite. Je pense que c'est radical, c'est irrémédiable, le grand tout, ça n'existe pas, quoi. C'est percé, c'est troué. Alors après, il s'agit de le faire exister, d'une certaine façon. Entre nous, pour ceux qui sont... C'est un semblant, pour ceux qui sont encore avec le grand autre. Enfin, moi je dis ça comme ça, ça se creuse, hein, je ne sais pas, c'est pas non plus parole d'évangile.
Non, parce que toute la question de la croyance, ça.
Oui, c'est ça que tu voulais, voilà, je te vois venir.
Oui. Donc, après, c'est vraiment propre à chacun, mais quid de ça, finalement?
Mais écoute, on verra si c'est. Est-ce que c'est pour la suite?
Moi j'ai dans l'idée que le grand autre, il est toujours là. On a toujours affaire au grand autre.
C'est l'autre de l'autre, la garantie. C'est autre chose qu'on voit un peu quand on parle. L'altérité, c'est effectivement ce qui est complètement autre. L'autre, c'est une altérité, quand même, l'autre. Même le petit autre, c'est une altérité, quand même, même si c'est recouvert d'imaginaire.
Marc ?
Oui, là, vous avez abordé le deuxième point là, sur lequel je voulais t'interroger. Justement, tu as très bien parlé de ce moment de l'inflossiscaille, de détresse absolue, et effectivement, là, il y a l'indice de ce qu'on peut appeler depuis Freud et surtout Lacan, une castration rencontrée réelle. Comment tu combines ça avec l'irréductible du symptôme? Parce que là, il y a. Oui. Tu vois, il y a d'un côté, il y a un côté avant-après, on-off, enfin, une césure absolument cliniquement repérable. Au contraire, l'irréductible du symptôme, il y a une continuité.
Oui, absolument.
Et comment tu réponds?
Il faut que je réfléchisse un peu.
En attendant, peut-être Anastasia, tu poses
une question, mais c'est plutôt une remarque de bénéficier. J'étais un peu étonnée.
Il est de Lacan.
Ah, il est de Lacan, parce que je voulais rajouter,
oui.
Il parle aussi de routine bureaucratique. Donc ça coïncide bien avec le CDI, je ne sais pas si c'est de Lacan.
Non, non, non. Non, c'est dans l'air du temps, le CDI. Sauf que de notre côté, on serait davantage enclin à passer au CDD.
Peut-être que du coup vous pouvez développer ce terme carrière, hein, comment vous l'entendez, parce qu'on peut l'entendre par plusieurs manières.
J'ai choisi de relever ce terme-là proposé par Lacan, parce qu'effectivement, ça nous met sur le registre du travail. Je crois que Lacan emploie un terme qui relève de la terminologie du travail. Il s'agit d'une carrière de l'analysant. J'essaie de retrouver l'endroit où il en parle. Je crois que c'est dans le discours du psychanalyste.
Son apparition.
Oui.
Je reste un peu. Je ne sais pas quel adjectif utiliser. Embêté, Dominique, par cette affirmation que vous avez faite, je ne suis pas sous aveu là, je parle de moi, que ça n'a rien de naturel. Hein, dites-vous. Alors, ça me chiffonne un peu, puisque vous avez commencé en citant les propos de Lacan dans le séminaire 16 concernant le sujet névrosé qui est naturellement psychanalysant. Or, vous affirmez donc à un moment donné de l'exposé le contraire, sans plus. Alors, je veux vous interroger là-dessus, je veux vous dire, j'avais moi-même cité ce même passage lors de mon exposé à ce séminaire, et j'ai cru comprendre, c'est comme ça que j'ai pris la chose, que la structure de la névrose, que la supposition de savoir, mieux encore, la supposition d'un sujet au savoir, ce que nous résumons en disant sujet sur le savoir, est inhérente en tant que telle à la structure de la névrose.
Donc, jusque-là, je suis d'accord.
C'est à ce niveau-là, me semble-t-il, que se situe l'affirmation de Lacan, le sujet névrosé est naturellement psychanalysant. Et c'est d'ailleurs ce qui pose un problème à la fin de la cure, dit-il, mon souvenir est bon. Puisque, justement, il y a cette inhérence, que j'appelle moi inhérence, je crois que lui parle peut-être de coalescence, il faut, à la fin, séparer. Hein? Bon. Alors, votre « ça n'a rien de naturel », où le situez-vous?
Dans le déroulement du processus, effectivement. L'analysant, j'entends parfaitement ce que vous dites. Effectivement, il y a une tendance naturelle à la supposition de savoir, effectivement. Mais la carrière, donc c'est la carrière elle-même de l'analysant que je considère comme n'étant pas du tout naturelle, mais relevant d'un dispositif, et c'est la raison pour laquelle je crois que Lacan a produit le mathème du discours analytique pour essayer de montrer que la seule tendance ne suffit pas au processus lui-même. C'est le processus, ou alors la carrière analysante qui n'est pas naturelle. Voilà.
C'est pas une tendance, hein. Il y a pas
comment
de tendance. C'est pas une tendance, c'est une question de structure. Et c'est pourquoi se pose le problème de la possible définition, de la possible attribution de la qualité d'analysant à des sujets qui ne sont pas névrosés. C'est une question de structure. Mm-hmm.
C'était aussi à Dominique Morin, mais pas sur la fin, sur le début.
Hein?
Quand tu évoquais le tout pouvoir de l'analysant, c'est une expression de Lacan?
Non, c'est une expression d'Anne. Dans son exposé.
Le tout pouvoir de l'analysant.
Le tout pouvoir.
Le tout pouvoir de l'analysant.
Oui, je crois que j'ai dit ça.
Oui, plusieurs fois même.
Je
prête à...
Non, parce que c'est lui qui dans un premier temps... voilà, c'était simplement ça. Le pouvoir d'aller voir l'analyste et lui supposer un savoir. Hein. Ça n'allait pas plus loin.
Non, parce qu'il m'a semblé que tu parlais beaucoup dans ton exposé du pouvoir de l'analysant.
J'ai mis en question... cette idée que l'analysant, par ce que moi j'appelle la tendance naturelle, la pente naturelle à être analysant, ça suffit ou pas. D'où la question, est-ce qu'on peut faire son analyse avec n'importe qui? Or, on bute à lire Lacan, et avec l'expérience aussi, à la question de l'aliénation. Puisque
avec n'importe quelle analyse,
oui,
n'importe quelle
oui,
personne posée dans un fauteuil.
Oui, posée dans un fauteuil. Non, n'importe quel analyste.
Je ne comprends pas l'enjeu de cette question. Surtout quoi tu l'as fait.
Je crois pas pouvoir être plus clair que ça.
Le projet, il est inscrit dans ses gènes, qu'il est analysant. C'est ça, naturellement. Le gars, il n'a pas besoin de rencontrer un analyste particulier, mais de rencontrer éventuellement la fonction. Soit le projet, c'est un projet de la culture, et tout dépend de l'analyste qu'il rencontre.
Enfin, c'est comme ça que je... Donc la réponse, c'est n'importe quelle personne en fonction de l'analyse.
Non, justement, pas n'importe quelle fera l'affaire. Non. Pas n'importe quelle fera l'affaire.
Encore faut-il que l'analysant l'investisse pour que ça fonctionne. C'est ce que j'essayais de dire.
Non, mais ça ne marche pas.
Oui. Ça commence pas alors.
Non. Celui-là, oui. Ça ne va pas jusque là-bas.
C'est pire. Je vais arrêter les mots. Hein. Je crois que ce que dit Sol et ce que dit Dominique, ça ne me paraît pas forcément contradictoire. Je suis d'accord avec ce que dit Sol et que je crois que tu dis aussi, c'est que le naturel, ça concerne la structure du sujet, le sujet divisé. Ça ne veut pas dire que spontanément, un sujet divisé qui va avoir un analyste, par le seul fait d'y aller, va faire une analyse. Et tu as conclu à la fin, tu le dis très bien dans ta conclusion, il faut l'acte de l'analyste qui permet qu'il puisse y avoir un changement de discours. Donc il y a division du sujet, ça c'est le côté naturel, et puis il faut une opération pour que ça se produise. Puis si j'ai posé la question de l'impasse, c'est parce que je crois qu'on est d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse faire une analyse avec n'importe quel analyste. Et puis, il y a des analystes avec qui on peut résoudre une impasse rencontrée dans le transfert.
Je fais juste deux remarques... latéral. Je crois que Lacan est constamment ironique quand il emploie le terme naturel. Ça n'existe pas, la nature pour Lacan, c'est une institution parmi d'autres, y compris dans l'histoire des sciences dites naturelles, etc. Il n'y a pas d'emploi non ironique, je crois, du terme naturel chez Lacan. Donc peut-être c'est à prendre en compte pour donner un supplément d'épaisseur au débat. Et puis je voulais aussi, à propos d'ironie, je voulais aussi vous lire rapidement la définition de la carrière. La carrière est un lieu clos en plein air où se pratique l'équitation. Non, mais c'est bien sûr que c'est drôle, mais c'est pas ce qu'on croit. La carrière est souvent couverte de sable pour une bonne stabilité du cheval. La texture du sol doit être meuble et régulière. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête quand on entend Lacan parler de la carrière de l'analysant. Il s'agit de l'arène aussi, où les choses se jouent.
Justement, je voulais faire une remarque sur la carrière, mais plutôt sur l'aspect géologique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qu'on extrait de la pierre. Donc là, il y a peut-être, je ne sais pas dans quel séminaire il parle ou quel texte il parle de la carrière, mais il y a aussi quelque chose du côté de la matérialité, de quelque chose du côté de l'analyse, enfin de ce qui vient s'extraire jusque... Peut-être que ça croise peut-être la question de Marc du côté de ce qui reste à la fin de l'analyse. Hein, voilà, c'était...
Oui, je rejoins tout à fait Frédéric Pillion concernant l'usage du terme de naturel chez Lacan. Je crois qu'effectivement, c'est toujours à prendre avec des pincettes. D'autant plus que si on revient à la façon dont Lacan en parle dans le séminaire de Notre à l'autre à propos de l'hystérie, on peut se rappeler ce qu'il dit de l'histoire de la psychanalyse, hein, Freud et l'hystérie. Freud voulait que l'hystérique se remémore pour lui, les avatars de son attachement au père, l'hystérique, c'est ce qu'elle a fait. Je crois que même Lacan dit qu'elle s'est remémorée jusqu'à la lie. Mais sans que ce soit pour autant efficace. Donc voilà un petit peu l'enjeu sur lequel je voulais ramener la question de naturellement analysant, pas ce qu'à supposition du sujet supposé savoir, mais ça ne suffit pas parce qu'on sent bien que le désir de l'analyste, s'il n'est pas opérant, ça conduit, ben, peut-être comme l'a fait Freud, à certaines impasses, prouvées par l'hystérie.
Bon.
Je suis très perturbé par l'histoire qu'on ne peut pas faire son analyse avec n'importe quelle analyse. Je ne comprends pas la formule où il est en fonction pour le sujet, il y a analyse, où il n'est pas en fonction, il n'y a pas analyse. Qu'il puisse y avoir des lapsus de l'acte chez l'un ou chez l'autre ou chez le même, évidemment. Mais commencer à chercher les traits de l'analyste comme caractérisant la mise en fonction du discours, je ne comprends pas.
Mais tu auras fait une analyse quand même, si tu veux, t'inquiète pas. Mais tu seras pas le même analyste à la fin. Je crois que parce qu'il le dit, Lacan, ça, quelque part, quand il rend encore un hommage plus ou moins ironique aux gens de l'IPA en disant qu'il y a des analystes très bien avec qui on fait des excellentes analyses et tout. Il dit ça, je crois, en Suisse, à Genève, ou je sais pas où. Enfin, je crois que c'est dans la conférence à Genève. Mais tout ça c'est très bien, mais à la fin ça fait un analysé, mais ça fait pas un analyste. Enfin, je pense que c'est ce que Lacan, c'est la restriction qu'opère Lacan, je pense. Enfin, c'est mon idée. Non, ça accroît ton.
Einstein n'a pas été analysé par Lacan.
Ouais, mais enfin, Lacan, c'était quelqu'un.
Tiens, pas. Il était quand même autrement que tous. Mais pourquoi tu... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Einstein n'a pas été analysé par Lacan? Ça, c'est un fait.
Il a quand même conduit Lacan à faire son travail. Cela dit, c'est vrai que Lacan a dit à un moment, de façon polémique, il y a certains choix d'analyse qui empêchent définitivement de faire l'analyse. Là, si on est du côté de l'absurde de l'acte, on n'est pas du côté de l'entrée dans le discours analytique.
Mais bien, enfin bon. En tout cas, Lacan, ça peut être un contre-exemple de ce que tu dis. Parce qu'en 1936, il n'était pas analyste. Et il l'est devenu par après, par un processus mystérieux qui n'incluait pas la fréquentation d'un analyste institué en tant que tel. Ou sa position d'analysant, par exemple, de séminaire. Celle qui... Enfin, je ne sais pas.
Est-ce que
que j'ai posé une question à Dominique, mais je n'ai pas posé de question à Anne. Alors, je voulais poser une question à Anne. Tu as eu une formule que j'ai retenue, Anne. Tu as dit pas d'autre didacticien que l'expérience de l'inconscient. Moi, je l'ai noté parce que ça m'a frappé. Je trouve cette magnifique comme formule. Pas d'autre didacticien que l'expérience de l'inconscient. Ça, la force des affirmations catégoriques. Voilà, je voulais. Hein? Non, je c'est une formule forte, je pense que je suis d'accord, mais il y a des mais quand même, non? Est-ce que tu veux pas commenter un petit peu ta formule? Parce que ça va loin si on la prend au pied de la lettre. Pas d'autre didacticien que l'expérience de l'inconscient.
Non, mais c'est une formule là, dans ce que j'ai dit. Hein? C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est l'inconscient qui efface le sujet. Hein? Et donc, on peut dire, c'est un peu raccourci comme formule, c'est un peu peut-être péremptoire, mais c'est pas complètement faux. Ah non, c'était pour développer, alors je ne sais pas si je pourrais développer. Tu sais, c'est venu au bout de ma plume comme ça, mais après coup, faudrait que je réfléchisse un peu plus peut-être. Hein. De temps en temps, on a des formules comme ça, on est content, toc, ça part, et puis après on se dit, bouf, qu'est-ce que j'ai voulu dire.
Par exemple,
oui.
Pourquoi cette expérience de l'inconscient?
Jusqu'où va l'expérience de l'inconscient?
Elle est limitée par quoi? Est-ce qu'elle est limitée?
Elle est limitée, oui, elle est limitée par la fin de l'analyse et le symptôme. Et la réduction du symptôme. Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas de fin.
Peut-être que l'expérience de l'inconscient se poursuit.
Ah ben bien sûr, ça continue.
Voilà.
On ne peut pas l'effacer. Il efface le sujet, mais on ne peut pas effacer l'inconscient. Merci.
Je trouve que cette histoire de didacticien est bien vue, parce qu'effectivement, ça, en tout cas, ça me parle et je trouve que c'est ce qui convient par rapport à l'expérience. Mais après, je voulais juste dire un mot concernant, il me semble, ce que je crois être un invariant dans l'enseignement de Lacan, quelque chose qui a conservé une couleur, qui n'a peut-être pas évolué, en tout cas c'est une question que je me pose. Je me demande même si dans son ouvrage Les marques d'une psychanalyse, c'est pas un des pivots du livre de Louis Sizkovitch, à savoir la fonction du désir de l'analyste. Tel que Lacan l'a établi dans le séminaire 11, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui ne bouge pas. Que c'est toujours ça qui opère et qui fait qu'une analyse fonctionne ou pas. Après, que le sujet analysant marque, il choisisse tel ou tel analyste en se disant celui-là, ça va mieux marcher parce qu'il est philosophe ou parce qu'il est lettré, c'est imaginaire, c'est absolument imaginaire. On est d'accord. Et mais si ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui répond, et ce quelque chose d'autre qui répond et qui demeure comme un invariant dans l'enseignement de Lacan, c'est la fonction du désir de l'analyste tel qu'il a défini dans le séminaire 11, je crois. En tout cas, c'est une hypothèse aujourd'hui que j'ai.
Et le désir de vérité. Là, je suis pas d'accord du tout.
J'ai évoqué désir de vérité.
Vous voulez vous dire ce que vous voyez, ouais. Ça vous vient, le désir de vérité. Vous éprouvez un désir de vérité. Quelle idée de parler d'un désir de vérité avec tout ce qu'on a dans l'enseignement de Lacan, de mise en cause de la croyance en la vérité, de contestation de l'idée qu'il puisse y avoir une vérité toute, qu'on puisse dire la vérité mensongère à laquelle... le fantasme nous condamne.
Mais oui, bien sûr.
L'opposition entre la vérité et le rêve. Qui désire la vérité? Lacan a parlé, bien sûr, des amours de Freud avec la vérité.
Oui.
Mais de là, parler d'un désir
pour,
de vérité.
Pour en démontrer les mirages, hein, attention. Pour en démontrer les mirages, c'est tout.
Bon, d'accord.
Ah.
Les mirages.
Champagne.
Champagne.